Bonjour à chacun. C'est sympa d'être parmi vous. Allez, pour faire un petit peu connaissance, moi, je vous salue au nom des frères et sœurs de la chapelle de Renan, parce que c'est là que je vais à l'église d'habitude. Et je vais vous dire une chose, il ne faut plus l'appeler la chapelle de Renan, parce qu'en fait, elle appartient à la commune de Chavannes. Alors, on a décidé de changer le nom en disant la chapelle de Chavannes-près-Renan. Donc, c'est juste, je vous le dis, pour qu'on s'habitue, quand vous entendrez parler de la chapelle de Chavannes, c'est bien la Frée. Alors, vous avez leur salutation. Je m'appelle Monique Regaud. J'ai travaillé 18 ans à la Maison de la Bible. Et c'est comme cela que je connais, entre autres, Viviane, qui m'a demandé, est-ce que tu donnerais une prédication sur ce thème ? Pourquoi ce thème ? Parce que quand j'ai quitté, après mes 18 ans à la Maison de la Bible, je suis partie en Nouvelle-Zélande faire une école qui s'appelait le Cœur de Père de Dieu. Et c'était une école de 3 mois, donc c'est un privilège que d'avoir été là-bas. Et puis ensuite, je suis rentrée en Europe. Et puis, il y a un problème. Je sors du champ de la caméra. Pardon à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Heureusement qu'il y a des frères et sœurs qui savent m'indiquer que vous êtes là. Oui, c'est vrai, mes frères et sœurs qui regardent depuis la maison sont aussi importants. Merci beaucoup. Alors, de ce fait-là, je suis rentrée et qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai le privilège d'avoir la profession la plus drôle au monde. Non, peut-être pas au monde. Je suis pasteur dans les médias sociaux et missionnaire donc à Campus pour Christ. Je travaille en fait avec Instagram, Twitter, Facebook, toutes ces choses-là, où on met la Bible et les jeunes et les moins jeunes peuvent réagir, poser des questions et c'est donc mon rôle de leur répondre et de publier. J'aime beaucoup ce que je fais. Ça fait 8 ans que j'y suis. Encore pour une année et demie, puis après, après c'est la retraite. Je vais encore faire un tout petit peu de pub, puis après je commence vraiment mon message. Ce message, c'est qu'un tout petit peu d'un enseignement que nous donnons dans une semaine, pendant une semaine entière. Et cette semaine entière aura lieu du 19 au 25 juin 2020 à la Bessona ou la Bessogne à Lignerolles. 2022. J'ai dit une bêtise. Merci pour tous ceux qui sont bien réveillés. Et puis tous les dimanches soirs, depuis ce soir, tous les premiers dimanches du mois, pour ceux qui aiment se connecter par Zoom, on n'aime plus tous, hein. Entre 20h et 21h, on a des orateurs anglophones qui partagent aussi sur ce thème. Et si vous désirez vous connecter, ces feuilles seront à disposition. Je ne sais pas où vous posez chez vous, mais on va trouver l'endroit. Et vous pourrez me contacter pour avoir le lien pour le Zoom de ce soir ou des prochaines fois. C'est toujours le même lien après. Voilà, ça c'était ma petite présentation pour que vous sachiez qui est en face de vous. Le thème de ce matin, moi j'aimerais bien qu'on l'écoute pas seulement avec notre tête. Moi j'aimerais qu'on l'écoute avec notre cœur. Parce que de la même manière que Jésus s'est révélé à nous, si je vous demandais, vous savez tous à peu près quel jour ça s'est passé, à quel moment ou à quel âge vous avez tout à coup réalisé que Jésus est votre Sauveur et Seigneur. De la même manière, un petit peu, il nous faut une révélation de cet amour du Père. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer en nous-mêmes. On ne peut pas se convaincre que Dieu est Père. On peut, dans sa tête, mais ça ne change pas nos vies. Et j'aimerais commencer par mes découvertes. Plus je grandis dans cette connaissance de Dieu comme Père, plus je découvre aussi dans sa parole combien toute sa parole parle de ça. Pas seulement quelques versets dans le Nouveau Testament qu'on connaît bien. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela ? Adam, il a été créé par Dieu. Et en fait, Dieu lui a insufflé le souffle, donc il s'est penché sur Adam. Et la première personne que Dieu a vue, c'est Dieu. Que Adam a vu, pardon, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il a vu dans le regard de Dieu ? Il a vu tout l'amour de ce Créateur, toute la joie de ce Créateur. Et je crois que, en fait, c'est pas différent. Dieu nous regarde du même amour, avec le même regard. Puis on voit ensuite dans l'Ancien Testament, hein, moi je trouve, je suis tellement touchée de voir combien Dieu se met à notre niveau. Il accepte nos limites. Lorsqu'Israël, le peuple d'Israël lui a demandé que Moïse seulement aille en sa présence, surtout pas tout le monde, Dieu a accepté. Dieu a accepté cette limite que le peuple lui donnait. Lorsque le peuple a demandé un roi, Dieu a accepté. Bien sûr, il les a mis au courant de ce que ça voudrait dire, mais il a accepté. Et moi, j'aime voir ce Dieu qui nous prend en compte, qui est concerné par qui nous sommes et qui fait avec. Et j'aime aussi beaucoup voir tous ces passages qui m'émerveillent dans l'Ancien Testament où je vois la bonté puis en même temps la tristesse de Dieu. Par exemple, dans Ésaïe 30, voilà ce qui est écrit. En effet, voilà ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Moi, j'entends là tout l'amour et la tendresse de Dieu. Dans ce verset, comme je voudrais te mettre au même rang que des fils et te donner un pays de délices, l'héritage le plus beau parmi toutes les nations. Je me disais que tu m'appellerais mon père et que tu ne te détournerais pas de moi. Ça, c'est dans Jérémie 3. Dieu dit, mais moi, j'avais des projets magnifiques pour toi et tu t'es détourné. Ésaïe 64 nous dit, cependant, Éternel, c'est toi qui es notre père. Nous sommes l'argile. Tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Savez-vous que dans le Nouveau Testament, en fait, il est mentionné 180 fois le mot « père ». Dieu comme père, hein, pas seulement père, le père de, mais Dieu comme père. 180 fois. Et d'ailleurs, hein, vous êtes d'accord avec moi, ben Jésus lui-même nous a enseigné à prier « notre père ». Il ne nous a pas dit de le prier lui. Ça serait la même chose, prier le Père, même si je suis d'accord, il n'y a pas de conflit entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si on se trompe ou si on prie l'un ou l'autre, ils entendent tous les trois. Nous avons un Dieu trinitaire, un Dieu qui est un. Mais en même temps, moi j'aime ce Jésus qui nous dit, mais priez notre Père. Il est notre Père. Et je me demande d'ailleurs ce que les disciples ont vraiment compris quand il leur a enseigné cette prière. Et puis un verset qu'on connaît tous, alors vraiment, vraiment tous par cœur. Jean 3, 16. Là, vous êtes tous en train de vous le dire dans votre tête. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Oui, on le connaît ce verset. Vous savez, on l'utilise beaucoup dans l'évangélisation. On va vers les gens, on dit, mais tu sais, Dieu t'a tant aimé. Dieu t'a tant aimé. Le Père t'a tant aimé qu'il a envoyé de son Fils. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'après on le perd de vue, ce Père qui nous a tant aimés. Dans ce verset, souvent, on voit que le Fils. Alors, ce n'est pas grave de nouveau. Hein. Je ne suis pas en train de dire que le Fils n'est pas important. C'est par Jésus à la croix que nous sommes sauvés. Ça, il faut que ce soit clair au départ. Hein. Je ne suis pas en train de... C'est vraiment clair. Mais j'aimerais qu'on retrouve dans notre cœur ce Dieu qui est Père et qui a donné son Fils par amour pour nous. Ce Père qui nous a aimés. Jésus a aussi dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là aussi, c'est un verset qu'on connaît bien. Mais souvent, on s'arrête là. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais un chemin, ça mène à quelque part. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est ça, Jésus nous a montré le Père. Quand je parle à mes internautes, j'aime leur dire, mais Dieu est vivant. Nous avons un Dieu qui est vivant, qui nous aime. Un Dieu qui est là, qui est présent. Jésus nous dit, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et c'est vrai. C'est une révélation. Et je crois que c'est une révélation qui, pour certains, se fait boum, crac. Pas pour moi et pas pour la plupart d'entre nous. Connaître le Père, c'est pas de la théologie. C'est vraiment quelque chose qui se vit à l'intérieur de soi-même. Quelque chose qu'on, ouais, qui est là. Je vous donnerai un peu de mon témoignage tout à l'heure. J'aimerais juste encore mentionner un ou deux versets que vous connaissez bien, hein, mais que je pense important de nous rappeler. Romains 8, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc on est fils et fille d'un père. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Galates 3 nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Et puis mon verset préféré, je reconnais, c'est 1 Jean 3, 1. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes ». C'est vrai que ces paroles, on les connaît tous. On les a lues X fois dans notre Bible, et peut-être ça n'a pas changé nos vies. Et parfois, le Père nous semble, et Dieu nous semble bien loin de nous. Alors personnellement, c'est vrai que la première fois que j'ai entendu cet enseignement, c'était à Jeunesse en Mission, 81, et j'ai détesté cet enseignement sur Dieu comme Père. Je n'en avais pas du tout envie. Je ne voulais pas d'un Dieu qui ressemblait à mon Père terrestre, désolé. Ça ne m'intéressait pas. Pour moi, c'était un enseignement bizarre, puis un enseignement qui me faisait quand même un peu envie. Mais c'est vrai que ma maman, nous ayant appris à haïr mon Père, donc mon Père terrestre, parce que voilà, il y avait des conflits entre eux, j'avais plutôt appris à ne pas vouloir d'un père. Et de ce fait-là, c'est pour ça que ma réaction était si forte. Plus tard, en 87, toujours à Jeunesse en Mission, j'aurais envie de dire que j'ai eu une première, non pas la première, mais j'ai eu une révélation de plus de Dieu. Il ne me disait pas qu'il voulait être père, mais il me disait, tu sais Monique, j'aimerais être ton père. À moi. Ça me concernait moi tout à coup. Ce n'était plus le Père céleste, mais ça, il voulait devenir mon Père. Est-ce que j'étais contente? Mais en même temps, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, Dieu ne m'a pas donné d'explication, dans cette école-là, Dieu n'a pas pourvu comme je l'espérais. Et donc, je ne comprenais plus. Je lui ai dit, écoute, tu dis être mon Père, puis un Père, c'est celui qui pourvoit. Et puis, tu ne pourvois pas, donc je ne comprends pas. Donc, voilà. On en reste là pour aujourd'hui. Ça, c'est un peu ma relation avec Dieu. Et c'est vrai que la déception, être déçu, c'est vraiment quelque chose qui peut nous empêcher et nous bloquer dans notre relation avec Dieu et avec Dieu comme Père. Une prière qui est importante qu'on a faite, qui n'a pas été exaucée, elle peut réellement être un obstacle à nos cœurs pour reconnaître l'amour du Père. Parce qu'on ne comprend plus rien. Il semble que Dieu n'est pas là, qu'il s'éloigne, qu'il est indifférent. Et puis, on calque sur lui nos expériences avec les êtres humains autour de nous. La déception, d'ailleurs, elle provoque aussi quelque chose d'autre. La déception, elle provoque la peur de demander. Vous avez déjà remarqué, quand on a été tellement déçu dans un sujet, on n'ose pas trop aller vers Dieu avec un autre. La déception de ne pas oser demander va amener la culpabilité. On va se culpabiliser, on dit qu'on est un mauvais chrétien. As-tu été déçu de Dieu? Est-ce que tu as l'impression parfois que tu coinces encore dans ta vie de foi? Tu vois l'incrédulité, la honte, la culpabilité qui pointe souvent son nez dans ta vie. En fait, un cœur déçu peut vraiment être blessé. Et puis, qu'est-ce qu'il devra? Il devra retrouver la confiance en celui qui l'a blessé. Et puis moi, j'ai pas de truc magique. Moi, je me suis souvent cachée pour pleurer. J'étais fâchée, déçue de Dieu, et je me suis cachée pour pleurer. Je lui disais ce qu'il devait faire. Mais jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, si j'allais vers lui pour être consolée, si j'arrêtais de dire à Dieu, si tu avais répondu, si cela s'était passé, Si, on met tellement de si dans nos prières, en tout cas moi, je mettais tellement de si je changeais mes si en parce que. Alors, je vais vous donner un exemple. Si tu avais répondu, j'aurais eu tout l'argent qu'il me fallait pour payer mon école. Ça, c'était la manière revendicatrice de demander. Si je change mon si en parce que, c'est magique. C'est parce que tu es là avec moi, dans ma déception, tu viens me consoler. Et ces dernières années, j'ai fait attention à tous les si que je mettais dans ma relation avec Dieu et je les ai transformés en des parce que. Et ça change la vie. Je vous promets, ça change nos vies. Parce qu'il est là. Un autre obstacle qui parfois nous permet pas de connaître Dieu comme Père et puis qui est là dans nos vies, c'est l'incrédulité. On se dit, mais en fait, c'est pas pour moi ce message. J'en vaux pas la peine. Seigneur, moi, tu sais, je préfère être ta servante. Je préfère être ton serviteur. Ça, je connais. Je sais ce que ça veut dire, servir. Je l'ai fait toute ma vie. Ah, j'ai même peut-être fait un burn-out en te servant. Mais au moins, je sais ce que ça veut dire, te servir. Mais être un fils, être une fille, ça me semble bizarre. En fait, c'est intéressant parce que nous disons tous que nous aimerions être comme Jésus. Puis Jésus, il a dit lui-même qu'il ne faisait rien d'autre que ce qu'il voyait le Père faire. Ça se trouve dans Jean 5, 19. C'est assez fou. Jésus dit, je ne fais rien que ce que le Père me... Tout ce que je fais, en fait, je vais tourner le verset à l'envers. Tout ce que je fais, c'est ce que le Père me montre. Et je crois que ça ne veut pas dire l'incrédulité qui nous fait douter ne veut pas dire qu'on ne fera rien. Hein. Ça ne veut pas dire passer d'être un fils au lieu d'un serviteur. Ça veut dire, maintenant, je ne fais plus rien. Je m'assieds sur ma chaise, je jouis de ma relation avec Dieu. Non. Ce n'est pas dit tout ça parce qu'on a envie de l'aimer en retour. Et cela, ça veut simplement dire qu'on saura ce qui est notre part à nous. On ne va pas prendre la part des autres. On ne va pas prendre plus que ce qui est pour nous. On va juste prendre notre part. Je suis né à Fribourg. J'ai grandi dans cette ville. Je suis né dans une famille de 8 enfants d'origine catholique. Et Dieu, j'ai eu un privilège que peut-être quelqu'un d'entre vous l'a aussi eu, mais moi, je ne sais pas. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui a eu le même privilège que moi. C'est que Dieu s'est révélé à moi alors que j'avais 4 ans. Et je dis Dieu. Alors, je ne savais pas qu'il s'appelait Père ou Papa. Ça, je ne savais pas. Jésus... Je ne connaissais pas. Saint-Esprit, je ne savais même pas qu'il existait. Mais Dieu s'est révélé à moi, dans ma chambre. Je me vois encore. J'avais une robe, j'avais des longs cheveux. Je me vois dans ma chambre, debout, les jambes écartées, et réalisant que dans mon cœur, Dieu me parle. Et je savais que c'était Dieu. Dieu me parle et il me dit, « Monique, je suis là pour toi. » Tu peux tout me raconter. J'avais 4 ans, j'en ai 62, donc faites le calcul, ça fait 58 ans que je lui parle. Ça fait que 58 ans que je parle avec Dieu. Et je vais vous dire, j'ai arrêté une fois, parce que je veux voir des sourires sur votre tête. Alors, j'ai arrêté une fois de lui parler. J'étais en Allemagne, j'allais pas bien. Puis j'ai dit à Dieu ce matin-là, écoute Dieu, si tu étais là, eh bien, j'irais mieux. Donc, dès maintenant, je décide que c'est fini avec toi. Et donc, j'ai rangé ma Bible au fond de la commode et j'ai passé ma journée. Donc, j'étais fille au père en Allemagne. Puis le soir, je remonte dans la chambre, j'ouvre ma commode, je prends ma Bible et je m'entends dire à Dieu, « Je ne suis pas sûre que c'est juste ce que je fais, mais tu es vraiment le seul à qui je peux parler français dans ce pays. » Donc, il faut absolument que je revienne à toi. Je dis cela parce qu'en fait, en ayant grandi à Fribourg, vous connaissez les blagues sur les Fribourgeois. Malheureusement, tout le monde les connaît. Pour ceux qui ne les connaissent pas, elles semblent dire qu'on est bête, et sale. Eh bien, moi, ce que ça a provoqué en moi, c'est un manque d'estime de moi. Et ça aussi, c'est un obstacle pour rencontrer Dieu comme Père. En fait, il a fallu petit à petit que Dieu se révèle à moi et me montre qui je suis et ma valeur. Il l'a fait souvent par, en fait, mes amis. Il a commencé à Jeunesse en Mission, parce qu'à Jeunesse en Mission, on est entouré de monde qui nous dit « Ah, t'es jolie aujourd'hui !» ou qui nous font des compliments, ou qui nous disent un petit sourire simplement. Et puis après, il a continué tout au long de ma vie à me donner des gens autour de moi qui m'ont aidée. Mais aussi, c'est dans ma relation avec lui. Et ce que j'aime avec Dieu, dans ma vie personnelle, c'est que c'est toujours lui qui a initié les choses. Je me vois encore, j'avais acheté une robe, ce qui était très rare pour moi. Normalement, j'étais plutôt en pantalon. J'avais acheté une robe et je me regardais au miroir et j'entends clairement Dieu me dire « Je t'aime ». Et ma réponse, « Ah non, pas comme ça ». Parce que je n'aimais pas trop qu'il m'aime avec une robe. J'aurais préféré qu'il me dise ça avec des pantalons. Mais malgré tout, ça a mis en valeur ma féminité. Mais je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. J'aime ce Dieu qui me dit que je peux me tromper. Ce n'est pas grave. Ce Dieu qui me dit que je suis aimée. Ce Dieu qui me respecte, qui respecte mes limites, qui n'attend pas tout de moi. Et là, j'aimerais aussi vous partager pour moi ce qui a été un gros obstacle à la découverte de Dieu comme Père. C'est la comparaison. Mais ce n'est pas seulement pour ce thème-là que c'est un obstacle. Vous savez comment je l'appelle, la comparaison, c'est un poison. C'est un poison qui pourrit nos vies. Si souvent, je suis presque sûr, vous êtes allé dans des rencontres comme moi, plus ou moins charismatiques, puis un orateur est devant, puis il a fait un appel pour s'avancer. Puis vous regardez, puis vous dites, j'y vais pas. Puis vous voyez des gens qui vivent des choses fortes, puis vous dites, et vous vous dites, j'aimerais comme elle, puis vous ne recevez pas. Puis donc vous vous dites, ben, j'en vaux pas la peine. Je ne vaux pas la peine. Arrêtons de nous comparer. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, pendant le premier mois, je n'ai pas arrêté de me comparer. Parce qu'il se passait des choses visibles dans la vie de certaines personnes, ma compagne de chambre a rajeuni en 3 mois. C'est incroyable. C'était une femme de mon âge, j'avais 53 ans à ce moment-là, elle aussi à peu près. Je l'ai vue rajeunir tout au long de l'école. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est complètement fou. Puis moi, je ne recevais rien. Pourquoi ? Parce que je commençais à me comparer, à dire « mais j'aimerais bien recevoir ça » et puis avoir des choses comme ça. Puis un jour, je me suis dit « non, stop, stop, stop. Soit tu crois que Dieu t'aime et qu'il parle, et qu'il te parle, soit tu ne crois pas, il faut que tu choisisses. » Et je me rappelle ce soir-là, j'ai dit à Dieu, « Oui, je crois que tu m'aimes et je veux maintenant que tu me parles tous les jours. Pendant le reste de cette école, je veux que tu me parles. » Et en fait, Dieu l'a fait. Il ne faut pas oublier, on est tous différents. Certains d'entre nous, on aime les câlins. Certains d'entre nous, on aime la relation avec les gens. Certains, ils aiment les cadeaux. Ah, ils se sentent vraiment importants quand ils reçoivent un cadeau. On est tous différents. Quand on se compare, c'est renier ce que nous sommes. Moi, Dieu, à 4 ans, m'a parlé. Pourquoi il a choisi ce moyen-là ? Ben parce qu'il sait que pour moi, la parole, la relation est super importante. Il n'allait pas choisir de m'offrir un cadeau, parce que le cadeau, c'est pas, je suis contente, mais ce n'est pas très important. Et moi, j'aimerais nous dire ce matin, arrêtons de nous comparer. Arrêtons de vouloir ce que l'autre a. Ça nous détruit nous-mêmes et ça nous empêche de rentrer dans notre relation avec Dieu de fils et de filles. Il y a une autre chose qui est en fait dans la semaine que je vous ai présentée tout au départ qu'on fait. Il y a un point central qui est le pardon. Puis on peut se dire, ouais, bon, alors le pardon, je connais. J'ai pardonné, c'est bon. Ben moi aussi, c'est ce que je pensais. Puis en même temps, c'est ce que je pensais, avoir pardonné, et je l'avais fait, avec ma tête, je l'avais fait. Mais j'avais pas vraiment calculé ce qui m'avait été volé. Et c'est un peu la base de notre enseignement, le centre de notre enseignement dans la semaine, c'est calculer ce qui nous a été volé par les circonstances de la vie. Un exemple, quand ma maman, justement, nous a appris à ne pas aimer notre père, ben, elle nous a, en tant qu'enfant, privés d'une relation saine avec les hommes. Elle nous a volé cela. Ce n'est pas la faute de ma maman. On ne cherche pas à mettre une faute sur quelqu'un, mais à prendre les faits réels. Voilà, ça s'est passé, ça m'a blessé. Je le prends, et quand j'ai fait ma liste, j'ai choisi de prendre un après-midi pour voir devant Dieu, mais qu'est-ce qui m'a été volé de par mon éducation, de par le fait que je suis fribourgeoise et de tout ce que les gens disent de nous. Qu'est-ce qui m'a été... J'ai pris le temps, et je me rappelle, j'ai pas mal pleuré en écrivant ces choses. Puis après, moi j'ai eu à cœur d'aller présenter à quelqu'un, pas pour qu'il dise quoi que ce soit. Je lui ai dit, moi je veux les dire, j'ai besoin de les dire. Et j'étais les dire à cette couple, puis après j'ai dit, maintenant je pardonne, maintenant je laisse aller ces choses. Et je pense que ça a vraiment ouvert aussi mon cœur à encore plus recevoir cet amour du Père. Arrêter d'en pardonner pleinement ce qui s'est, ma foi, passé. Ça s'est passé, je ne vais pas le nier. Une autre chose que j'aimerais nous encourager à abolir pour soi-même, pour la vie de nos frères et sœurs, c'est tous les « il faut » et « tu dois ». C'est aussi des pièges. C'est aussi des pièges qu'on tend très vite à soi-même ou aux autres. Quand moi, je me disais « tu dois faire ça », en fait, ce que je cherchais à faire, c'est à plaire à Dieu et aux hommes. Je voulais me conformer pour être sûr que je serais aimé, pour être sûr que je suis bien. Mais en même temps, est-ce qu'il faut toujours ? Est-ce que je dois toujours ? Ou est-ce qu'il n'y a pas des moments où ce n'est pas pour moi ? Qui suis-je pour dire à Corinne « tu dois faire telle chose. Tu dois. » Qui suis-je pour lui donner un ordre ? Et je crois que là aussi, c'est vraiment une chose que j'aimerais nous encourager en tant qu'Église. C'est à veiller à ces petits mots-là. Quand je vais vers mon frère ou ma sœur qui est en souffrance, lui dire « ah mais il te faut prier plus. » Est-ce que c'est vraiment ça qu'elle a besoin ? Est-ce qu'elle n'a pas peut-être juste besoin qu'on lui dise « j'entends ta souffrance. Est-ce que je peux prier pour toi ?» Ou simplement « j'entends ta souffrance. » Et ça suffit. J'ai mis où ma bouteille d'eau ? Ah, tu peux me l'apporter. J'ai un petit problème de santé qui fait que là, il faut absolument que je boive. Ce que j'aimerais nous dire, c'est que nous sommes aimés. Et qu'est-ce que ça change d'être aimé ? Eh bien, ça change la vie, parce que ça nous permet d'être nous-mêmes et d'avancer et de grandir, de devenir tel que Dieu nous a créés. Dieu m'a toujours vu tel que je suis réellement, moi pas. Mais ce n'est pas une chose non plus pour moi. Marcher dans l'amour de Dieu, ça reste une marche, ça reste un chemin à faire. Par contre, je peux voir les fruits. Maintenant, ce que je peux vraiment voir, c'est les fruits de son amour dans ma vie. Un des fruits, c'est que je peux oser rater. Je peux oser me tromper. Je ne vais pas dire que pas grave, mais en fait, souvent, c'est pas grave, effectivement. J'ai appris une nouvelle profession à Campus pour Christ. Ben, j'y connaissais rien dans les médias sociaux, mais rien du tout, du tout. Ben, je me suis trompée parfois. Mais ce n'est pas grave, je suis aimée. C'est comme si mes pieds sont mis dans les racines de l'amour de Dieu et ça me permet de me tromper, Ça me permet de faire des fautes sans me culpabiliser. Et ça, c'est vraiment important. J'arrête aussi de stresser. Et ce que j'aime, c'est quand je stresse, parce que ça m'arrive bien sûr encore, j'entends Dieu me dire, panique, il se passe quoi en ce moment? Qu'est-ce qui fait que tu stresses? Puis je m'arrête, je dis, ah ouais, t'as raison, je suis en train de stresser. Et là, je prends le temps. En fait, ça, c'est fonctionner comme des fils et des filles, et c'est ce que Dieu aimerait que nous soyons. Juste sa fille, son fils. J'aurais envie de dire rien de plus. Si on vit comme des orphelins, ben on ira vers les autres chercher ce dont on a besoin. C'est les autres qui vont vouloir, qu'on voudra qu'ils remplissent. Puis les autres, ben, ils sont limités. Ils ne vont pas remplir. J'aimerais ce matin, nous encourager vraiment à se rappeler, se souvenir que Dieu le Père nous a tant aimés. Et il nous aime tellement qu'il nous permet d'être nous-mêmes, qu'il nous permet de vivre une vie pleine, avec vos capacités, avec vos joies, avec vos peines, avec vos difficultés, avec tout ce qui fait votre vie. Veillons à éliminer les « tu dois » et les « il faut » qui nous détruisent si souvent. Veillons à éliminer ce regard qui dit « pourquoi il fait ça ?» Veillons à ces choses, encourageons-nous à vivre comme des fils et des filles. Encourageons-nous parce que nous sommes aimés. Moi, j'ai trop envie de vivre toujours plus enracinée dans cet amour de Dieu. Et de ne plus pas oublier cette bonne nouvelle, justement, hein, qu'on dit que c'est une bonne nouvelle. Dieu nous a tant aimés. Dieu désire nous rencontrer, continuer de nous rencontrer comme Père. Il nous invite à lui faire cette place, à nous ouvrir à lui. Je ne vais pas parler plus longtemps. Par contre, j'espère que Corinne sera d'accord, mais j'irai m'asseoir. Je vous propose une minute de silence. Une minute de silence, juste une, hein, on ne va pas faire cinq, on va faire une minute de silence, pour se poser et puis dire à Dieu, mais dans quel domaine ? Quels sont les obstacles que je mets à recevoir ton amour? Ou bien, dans quel domaine tu aimerais que je grandisse? Et puis, si vous voulez en savoir plus sur mon témoignage plus long, ben, venez à la semaine. Mais il faudra, je sais, accepter de vivre en communauté, et deux par chambre ou trois par chambre. Je réalise que vous êtes des aînés. Je vais jamais vous rejoindre, mais je vais entrer dans les aînés tout bientôt. Mais en tout cas, je vous encourage vraiment à chercher, quand vous ouvrez votre Bible, regardez l'amour de Dieu. Regardez toutes les fois où sa patience s'est exercée, où il a averti avant de punir. Ça me touche toujours, ce Dieu qui avertit. Il n'est pas là, boum, je te détruis maintenant, c'est tout. Non, on le voit souvent comme ça. Mais en fait, ce n'est pas ça, il a averti. Et ce Dieu, il n'a pas changé. Dieu a tant aimé chacun d'entre nous. Qu'il a donné son fils et qu'il désire que nous vivions, nous aussi, comme des fils et des filles. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous laisse prendre une minute de silence.